Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et la scène politique de RDC à la une ce matin. On fera le point sur les consultations engagées en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un lourd bilan pour l'armée camerounaise visée et touchée par une attaque de Boko Haram dans le nord du Nigeria. Un bras de fer qui s'annonce ensuite en Centrafrique. L'opposition maintient son appel pour une marche pacifique le 4 avril, malgré l'interdiction des autorités. Une plainte déposée devant la justice allemande. 8 témoins des horreurs ayant déchiré la région éthiopienne du Tigré entre 2020 et 2022 veulent se faire entendre. Et puis, Madagascar et sa capitale Antananarivo, surprise à nouveau ces derniers jours par de fortes pluies. Il y a plus de 11 000 sinistrés selon les chiffres officiels. L'objectif est donc affiché en ces temps troublés en RDC. Il s'agit de former un gouvernement d'union nationale. Et pour cela, le conseiller sécurité du président Tshisekedi a entamé des consultations au sein de la classe politique. Mais pour l'heure, si l'on fait le point, Patient Ligodi, on constate que seuls des poids lourds de la majorité présidentielle ont été entendus à ce stade.
En deux jours, le messager sécurité du président Félix Tshisekedi n'a reçu que les sociétaires de la majorité qui a aussi besoin de cohésion interne. Augustin Kabuya, le chef du parti présidentiel UDPS, l'a reconnu.
On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation.
Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, à la tête de son parti, le MLC, pense à la cohésion, mais pour la reconquête des territoires occupés par les rebelles du M23, AFC.
Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense, que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons.
Même idée pour Billy Kambalé, secrétaire général du parti UNC de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale.
Nous avons formulé nos propositions pour que, à l'issue de ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre qui va mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda.
Seront également reçus dans les prochains jours les acteurs de la société civile, mais pour le moment, les principales forces de l'opposition ont déjà rejeté l'offre, estimant qu'elle n'aidera à rien face à la crise. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
La RDC, qui compte par ailleurs un mouvement politico-militaire de plus, la CRP, la Convention pour la Révolution Populaire, lancée dimanche par l'ancien chef de milice Thomas Lubanga, condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour l'enrôlement d'enfants soldats, libéré en 2020 après avoir purgé sa peine. Désormais installé en Ouganda depuis près de 7 mois, Thomas Lubanga affirme ne pas faire cela pour obtenir un siège dans le gouvernement d'union qui se dessine. La RDC encore et cette alerte de Médecins sans frontières sur la situation en Ituri, province voisine du Nord Kivu, en proie à un cycle de violence à caractère communautaire depuis 2017 et à l'action des groupes armés également. MSF y dénonce une recrudescence des atrocités dans un rapport intitulé « Risquer sa vie pour survivre ». Cela fait sans doute partie des plus lourds bilans enregistrés par l'armée camerounaise face à Boko Haram. Au moins 11 soldats tués dans le nord du Nigeria, tués dans la localité de Wulgo par des djihadistes déguisés en éleveurs et en commerçants. Plusieurs bases militaires ont par ailleurs été incendiées. Les assaillants, après leur infiltration, sont repartis avec des armes. Récit signé Polycarpe Samba.
Selon des sources sécuritaires à Maroua, l'attaque est survenue dans la nuit de lundi à mardi dans la localité nigériane de Wulgo, frontalière du département camerounais du Legonichari. Les mêmes sources déclarent que les insurgés de Boko Haram ont pris par surprise des camps de base des forces multinationales mixtes qui comptent en leur sein des soldats nigériens, tchadiens, nigériens et camerounais et qui opèrent dans la région dans le cadre des missions anti-djihadistes. Particulièrement violente, l'attaque qui a duré un peu plus de 2 heures a fait de nombreuses victimes dans les rangs des soldats camerounais, au moins 11 morts et 21 blessés qui ont été conduits dans les hôpitaux de Maroua. Les insurgés ont aussi emporté des armes, dont des canons anti-aériens ainsi que des munitions. Ils ont aussi mis le feu sur ces bases militaires et des véhicules de combat, renseigne pour sa part l'AFP. Cette attaque sur Wulgo en territoire nigérian est l'une des plus meurtrières pour les forces camerounaises, engagées depuis plus de 10 ans contre les islamistes de Boko Haram venus du Nigeria dont les exactions débordent assez régulièrement côté Cameroun dans les localités qui bordent la frontière. Pour les Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Nous sommes très inquiets des attaques persistantes contre les civils à travers le Soudan. L'alerte du secrétariat général de l'ONU après une frappe aérienne menée sur un marché du Darfour Nord dans la ville de Tora. Cette frappe aurait fait plusieurs dizaines de morts civiles et des centaines de blessés. Au Soudan du Sud voisin, les médias locaux parlent ici aussi de bombardements intensifs. L'opposition proche du vice-président Riek Machar dénonce des frappes lundi soir sur l'une de ses bases militaires à Vounaliet, à une quinzaine de kilomètres de la capitale, Djouba. Le SPLM-IO, le parti du vice-président, parle d'une provocation constitutive d'une violation de l'accord de paix de 2018. L'armée sud-soudanaise, fidèle quant à elle au président Salva Kiir, n'a pas fait de commentaire pour le moment. Des associations réclament justement un retour de la discussion.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
En Centrafrique, il était entre 2013 et 2015 l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui régnaient dans le quartier populaire du PK5 à Bangui. Mohamed Ali Fadoul a été arrêté pour répondre à la justice. Annonce de la Cour pénale spéciale composée de juges nationaux et internationaux. Mohamed Ali Fadoul a été interpellé le 20 mars. Il a déjà comparu. Il est accusé d'avoir participé notamment à l'attaque du 28 mai 2014 contre l'église catholique Notre-Dame de Fatima dans le 6e arrondissement de la capitale. 15 morts au moins à l'époque et près d'une quarantaine de personnes également kidnappées et portées disparues. La Centrafrique est sa scène politique à présent, car l'opposition maintient son appel pour une marche pacifique le 4 avril. Malgré l'interdiction des autorités annoncée par communiqué lundi, les meneurs de cette opposition ne font pas machine arrière. Réunis au sein du BRDC, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution, ils vont manifester pour dénoncer la gestion du gouvernement telle que manifeste régulièrement et librement les partisans du pouvoir. C'est en tout cas ce que nous explique Crépin Boligumba, l'un des leaders du BRDC.
Il y a une marche qui est prévue le 30 mars en soutien à la candidature du président de la République. Alors dites-moi, au nom de quoi et dans quelle République les Centrafricains peuvent se lever, improviser des marches sans autorisation et d'autres n'auraient pas le droit. Nous ne pouvons pas accepter cette discrimination. Il y a d'un côté ceux qui n'ont pas besoin d'autorisation pour manifester et ils le font au nom du pouvoir tous les jours que Dieu fait, des marches rémunérées. De l'autre côté, nous, de l'opposition, qui n'avons aucun droit. La République ne peut pas être partiale et sectaire. Et bien entendu, nous allons maintenir notre marche du 4 avril. Nous avons informé le ministère de l'Intérieur de ce qu'il fallait encadrer notre marche. Nous sommes dans le cadre constitutionnel, dans le cadre légal de nos activités politiques. Donc, nous maintenons notre marche du 4 avril. En tout état de cause, l'interdiction concerne une marche du 4 avril 2024. Nous sommes en 2025, donc nous ne nous sentons pas concernés par cette interdiction.
La réaction de Crépin Boligumba en Centrafrique. La justice allemande saisie pour statuer sur les violences au Tigré, cette région éthiopienne qui a été déchirée par une guerre civile ayant fait au moins 600 000 morts entre 2020 et 2022. Ce sont 8 témoins de ces atrocités qui ont déposé plainte à l'encontre de hauts responsables et d'officiers éthiopiens comme érythréens. Ils sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et c'est la première plainte du genre en Allemagne donc, Paul Lorgerie.
La plainte déposée en septembre 2024 et complétée avec de nouveaux éléments le 20 mars dernier concerne 12 hauts dignitaires dont les noms n'ont pas été dévoilés. Les 8 plaignants qui ont requis l'anonymat et dont la plupart résident en Allemagne ont été témoins de différents meurtres, viols ou encore détentions arbitraires. Donc pour Nick Lady, à la tête du département des contentieux de l'association Legal Action Worldwide qui a rédigé la plainte, il y a de bonnes raisons de croire que les faits reportés constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
La plainte, qui fait environ 100 pages, est constituée d'analyses approfondies, de preuves en source ouverte ainsi que de témoignages de nos clients qui sont des victimes. Toutes ces preuves mises bout à bout devraient être suffisantes pour que le procureur allemand ouvre une enquête et, espérons-le, délivre un mandat d'arrêt.
Cette plainte intervient alors que la situation se détériore de nouveau dans la province du Tigré sur fond de tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le 14 mars dernier, l'Union africaine exprimait sa profonde inquiétude et ce malgré d'autres écritures contre l'État éthiopien portées en 2022 par l'association de Nick Lady devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuple. Commission qui avait alors émis en octobre 2022 des mesures conservatoires d'urgence pour empêcher que les violations ne se reproduisent.
Paul Lorgerie. Au Zimbabwe, le chef de l'armée, Antselem Namo Sanyatwe, mis à la retraite par le président Mnangagwa. Antselem Namo Sanyatwe, qui devient à la place ministre des Sports et de la Culture. Lui qui est un ancien commandant de la garde présidentielle, qui avait été sanctionné par les États-Unis en 2019 pour la répression post-électorale de 2018. Son changement de poste intervient alors que les tensions politiques s'intensifient à l'approche des élections de 2028. Un changement qui intervient, selon plusieurs observateurs, comme une manœuvre pour prévenir un coup d'État contre le président Mnangagwa. Des dizaines de maisons emportées, d'autres encore sous les eaux. À Antananarive, la capitale malgache et ses alentours, les habitants ont été pris de court par les fortes pluies des derniers jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, la rivière Sisaone, qui traverse la banlieue sud-ouest de la ville, est brusquement sortie de son lit au niveau de plusieurs zones habitées. Une digue a cédé face aux crues et plus de 11 000 sinistrés ont été recensés dans la commune d'Ampitatafik. Reportage de Pauline Troquier.
De l'eau jusqu'aux hanches, Pierrot s'empresse de traverser les 5 mètres qui séparent sa maison de la terre sèche. Chez cet habitant, encore encerclé par les eaux, les dégâts sont plus impressionnants qu'ailleurs. Les murs s'effritent, les meubles flottent, mais de peur de tout perdre, il refuse de rejoindre les sites d'accueil des sinistrés.
Vous êtes les premières personnes extérieures au quartier que j'aperçois ici. Aucun responsable n'est passé. Alors, quand je vous ai vu, j'ai accouru pour vous parler de ce qu'on vit. Moi, j'ai très peur que ma maison finisse par s'écrouler. Mais j'ai décidé de rester ici pour éviter un cambriolage.
Comme Pierrot, dimanche en pleine nuit, des centaines d'habitants ont été tirés de leur sommeil par la montée rapide des eaux. Cette zone insalubre est exposée chaque année aux inondations. Mais cette fois, la maison de Farana n'y a pas résisté et s'est écroulée. Ce n'est pas une raison pour cet habitant de quitter les lieux.
Mais où est-ce que vous voulez qu'on aille? On n'a nulle part où aller. Et ici, c'est notre terre. Nous demandons simplement au président d'aménager cette zone pour nous protéger. On vit la même scène tous les ans. On a juste besoin d'aide.
Dans la capitale où le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter chaque année, l'absence d'un plan d'urbanisme adapté favorise l'installation massive des plus démunis dans ces zones à risque, faute de place. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
RFI, restez avec nous, bien sûr, vous ne serez pas mieux ailleurs, c'est certain, car notre matinale continue tout de suite et c'est avec André-Anne Mélard.